BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
C'est la mine d'informations pour tous vos placements, pour votre accès direct au marché, BFM Bourse, en direct jusqu'à 18h. On est en connexion totale avec l'ensemble des marchés boursiers, notamment avec la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne, allez, tranquillement 0,12%, mais on se maintient autour des 8200 points. Du côté des autres indices européens, on a un Eurostock 50 qui est vraiment sur le fil du rasoir, hein, plus 0,06%. Tendance indécise aussi du côté du DAX à Francfort qui est passé légèrement dans le rouge, moins 0,17%. On a Londres, moins 0,1%. C'est un petit peu plus décidé du côté des bourses du Sud, hein, avec Madrid qui gagne 0,6% et plus 0,57%. Pour le MIB à Milan, un petit coup d'œil sur Wall Street avec une belle performance des indices américains. Alors, toujours sur des niveaux records, 27 000 points désormais au compteur pour le Nasdaq, plus 0,65%. Le Dow Jones, plus 0,35%, 50 848. Et le S&P 500, hausse de 0,45% aux portes des 7600 points, désormais 7597. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe à Paris. Michelin signe la plus forte hausse à plus 2%, 31,63€. Saint-Gobain plus 1,44€ à 78,82€. Société Générale plus 1,4%, 71,04€. À la baisse, Pernod Ricard moins 1,6€, on est à 63,36€. Sanofi moins 1,52€, 75,20€. Danone moins 1,36€ à 61,02€. On a eu une grosse semaine de la tech européenne. Puis là, ça se calme un petit peu en cette fin de semaine. On travaille un petit peu plus les valeurs traditionnelles, on va dire. Mais on termine un indice CAC 40 qui termine le mois de mai quasiment sur ses plus hauts du mois. On aura gagné un petit peu plus de 2,5% hein, sur la période et on s'achemine donc vers ce score qui reste quand même honorable. On sera sorti des ornières techniques de ces derniers temps pour se hisser vers de nouvelles hauteurs. Avec quelques noms qui reviennent hein, dans la cote, on a de très belles performances du côté de De Richebourg, on a de très belles performances du côté de Pierre et Vacances. C'était peut-être même la meilleure pioche hein, hier soir après la clôture de la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé quand même de sacrées belles performances et dans des secteurs encore une fois auxquels on prédisait quand même quelques mois difficiles voire quelques années au vu de ce qui est en train de se passer du côté tout simplement de la géopolitique, des marchés, des tendances un petit peu sociologiques. Ben non, Pierre et Vacances s'en tire bien, le titre gagne 4,4%, on en reparlera dans quelques instants avec Thierry Gauthier de GSD Gestion, mais on voit que les valeurs du tourisme notamment de l'aérien reprennent de la hauteur en cette fin du mois de mai, ça fait plaisir. Accor par exemple gagne 1,37% à 47,31€. Enfin, Worldline. Alors, to be or not to be, on a commencé la semaine par les résultats. Ils étaient plutôt bons. On a eu le directeur général qui était l'invité de Laure Closier dans Good Morning Business en début de semaine. Est-ce que c'est le moment de revenir sur la valeur? On sait que tous les paiements numériques, tous les gros acteurs des paiements numériques, c'est très compliqué de dégager de la valeur. Worldline d'autant plus, étant donné qu'il y a quand même eu des déconvenues trimestre après trimestre, année après année. Mais est-ce qu'on a enfin un petit point d'inflexion sur ce qui est un petit peu le symbole des penny stocks quand même à la Bourse de Paris? On posera la question à nos gérants et à nos spécialistes tout au long de l'émission. Pour l'instant, on va faire un petit point sur l'actu économique du jour avec Emmanuel Macron qui promet des annonces formidables d'investissement à l'occasion du sommet Choose France. On a l'impression qu'il fait un peu du Donald Trump là-dessus sur le wording. Le président de la République les évalue à 87 milliards d'euros quand même hein, depuis le premier sommet en 2018. Et puis la construction de la première usine en France de matériaux actifs de cathode, des composants utilisés pour la fabrication de batteries pour voitures électriques, a été officiellement lancée aujourd'hui à Dunkerque. Elle doit générer 400 emplois. Baptisé Neomat Cam, ce site visant le marché européen permettra d'équiper jusqu'à 500 000 véhicules électriques par an grâce à une capacité de 40 000 tonnes. Oui, on le sait, c'est bien beau de fabriquer des batteries. La plupart des cellules et des matières premières qui vont constituer la batterie viennent d'autres pays, et particulièrement de Chine. Ben là, avec ce site, on résout le problème en partie, mais enfin, c'est déjà un grand pas. Allez, tout de suite, les valeurs du jour.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Thierry Gauthier, GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour Antoine.
Et merci de terminer cette semaine avec nous. Belle petite semaine pour le CAC 40 qui gagne un petit peu plus de 2%, quelque chose comme ça, pour terminer la semaine. Et alors, avec un nombre de secteurs qui font un retour en force alors qu'on ne les attendait pas forcément. C'est vrai qu'on a passé l'ensemble de la semaine à parler des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs européens qui commencent à prendre une sacrée hauteur, que ce soit STMicro, que ce soit Soitec, que ce soit ASML, etc. On a vu un retour de l'automobile aussi, d'une certaine manière. Et bien voilà le secteur du tourisme. Avec un acteur, Pierre et Vacances, qui rassure. Réveil du secteur du tourisme, mais toujours avec granularité, on va dire. Pierre et Vacances, c'est peut-être la valeur qui a tout pour plaire dans le secteur en ce moment, non ?
Oui, parce que le secteur du tourisme, bah, en effet, si on vient à avoir un process de paix entre Iraniens et Américains, c'est ce qui semblait se dessiner, en tout cas c'est ce que le marché a joué, et ben voilà, c'est dégonflement des prix du baril de pétrole, c'est une baisse des taux d'intérêt, donc tout ça c'est bon pour les valeurs comme Air France, comme TUI, etc. Et puis pour le tourisme d'une manière générale. Alors après, Pierre et Vacances, c'est un acteur qui bénéficie et de l'environnement économique quand il s'améliore, et du fait que Pierre et Vacances, c'est du tourisme vraiment de proximité. Donc voilà, si jamais le tourisme ne pouvait pas se faire très loin à l'étranger, ou que les vols transfrontaliers ou lointains étaient très chers, bah, Pierre et Vacances, c'est du tourisme à côté de chez nous, en tout cas. Et voilà, les réservations d'ailleurs sont très bonnes. C'est ce qui fait monter le titre ce matin, hein, puisqu'en marge des résultats semestriels qui ont été présentés, ils ont été présentés aussi les réservations pour la prochaine période à venir. Elles sont très très bonnes et voilà, le titre peut en profiter. Hein. C'est Pierre et Vacances, c'est une histoire de recovery. Hein. Il y a une grosse restructuration depuis 2-3 ans, l'entrée de fonds au capital, restructuration de la dette, séparation de l'immobilier, voilà, et on se concentre sur ce qu'on sait faire, hein, la gestion de logements touristiques, et ben voilà, ça repart, ça a tout pour plaire, ouais.
Et c'est, oui, parce que c'est peut-être l'aspect dont vous nous parliez qui est peut-être le plus intéressant, c'est le côté proximité, c'est voilà, les résidences en France, c'est à l'abri de l'agitation géopolitique, au contraire, c'est même, on va dire que c'est même une phase positive. Et puis d'un autre côté, du point de vue des tendances sociologiques aussi, avec également une hausse de l'inflation, on préfère partir en vacances en France, et ça c'est tout bénef pour Pierre et Vacances pour les prochains mois a priori.
Exactement, bah c'est le meilleur des deux mondes, parce que c'est les vacances, et c'est les vacances auxquelles on est assuré de participer sans que ça nous coûte très très cher, puisque elles sont accessibles à proximité de chez nous quand on est français. Donc voilà, quand on est un titre qui se paye 12 ou 13 fois les profits, qui est cash positif maintenant, hein, puisque tout le sujet de la dette a été traité. Et voilà, quand on se traite sur des ratios de valeur d'entreprise sur EBITDA qui sont à peine de 4 fois, et ben on est sur un titre qui présente pas mal de qualité. Alors voilà, c'est une petite capitalisation, hein, ça fait un peu moins d'un milliard d'euros maintenant, mais c'est un beau dossier de recovery, on pense.
Ok, recovery toujours. Alors, de Richebourg qui relève ses prévisions. Est-ce qu'on a droit à un vrai changement de dimension de la part de Richebourg ? Bon, le titre gagne encore 5,4%. On est à 10,05 là, en ce moment, sur le titre de Richebourg. On voit qu'il y a une très, très forte progression ces derniers mois. Est-ce qu'il est temps de prendre le train en marche ? Ou est-ce que le phénomène devient un peu trop important et qu'il faut se tenir à l'écart ?
Oh, nous, on est assez positif sur le titre de Richebourg, hein, qui a bien marché, qui a profité de la hausse des prix de la ferraille et qui continue d'en profiter. D'ailleurs, on le voit sur le semestre, et pas que, hein, puisqu'il y a tout ce qui est non ferreux, zinc, etc., cuivre, dont les volumes et les prix ont beaucoup augmenté. Ça permet au groupe d'avoir des finances très solides et qui leur permettent quoi ? De faire des emplettes. Hein. Alors, on l'a vu avec un move un peu stratégique avec Elior il y a quelques mois, et puis surtout la semaine dernière avec l'acquisition de Scholz Recycling, qui est un des acteurs majeurs du recyclage des métaux en Europe, et surtout en Europe de l'Est, hein, avec 86 sites en Allemagne, et puis aussi de nombreux sites dans les pays de l'Est, en Slovénie, République tchèque, Pologne, etc., des endroits où des Richebourg n'étaient pas. Et cette acquisition-là, ça représente la moitié du chiffre d'affaires que réalisait déjà des Richebourg, donc c'est vraiment transformant et conséquent. Donc voilà, une société bien gérée qui, du fait de sa bonne gestion, peut continuer de croître en rachetant des groupes qui vont momentanément moins bien et puis les remettre en ordre de marche avec les standards du groupe. C'est bien vu, c'est bien exécuté à chaque fois. Et donc voilà, quand on est un titre qui se paye à peine 10 ou 11 fois les profits, c'est finalement assez peu valorisé pour une société bien gérée, une dette qui tourne autour d'une fois les EBITDA, et puis un petit rendement, un petit dividende. Et ben c'est un groupe qui peut profiter de l'envolée des prix des matières premières, des métaux ferreux, etc. Donc on aime bien, on est à l'achat.
Ouais, de Richebourg, on va parler d'une autre histoire de recovery, même si celle-là est un peu plus difficile et un peu plus récente, c'est celle de Worldline. On l'a vu, on a quand même, depuis le début de la semaine, on avait reçu le directeur général sur l'antenne, quand même un peu plus de clarté, un petit peu plus de vision. On sait que c'est très très dur de faire des sous et d'être une entreprise rentable dans le domaine des paiements numériques, hein, mais ça c'est à l'échelon mondial, hein, c'est pas propre à Worldline. On voit que il y a quand même quelques problèmes qui sont inhérents à cette société. Malgré tout, voilà, après un bilan très très négatif depuis plusieurs années, le titre se réveille depuis un mois, il regagne 35%. C'est une penny stock, hein, on est du côté des 36 centimes. On est en hausse de 3% là aujourd'hui. Est-ce que après l'annonce d'un élagage dans les activités, est-ce que ça reste une valeur, est-ce que ça redevient une valeur un petit peu investissable, on va dire?
Nous, on reste encore à l'écart du dossier. Hein. Bah, c'est un peu le contre-exemple de Derichebourg. Hein, quand vous avez une société qui gagne des sous, qui réalise bien son exploitation et qui peut faire des emplettes parce qu'elle a la des capitaux à mobiliser. Worldline, c'est exactement l'inverse. Hein. On court après la réduction de la dette. Hein. La dette nette, elle représente encore autour de deux fois l'EBITDA. Donc là, c'est des cessions forcées. Donc, il y en a eu déjà plusieurs d'annoncées. Et le produit net combiné de l'ensemble des cessions là, qui ont déjà été annoncées, ça devrait être entre 500 et 600 millions d'euros. C'est 6 ou 7 cessions qui ont été annoncées avec Metz, avec les activités en Nord-Amérique, les activités en Inde. Et puis ce matin, en Nouvelle-Zélande, après l'Australie, je crois, il y a quelques semaines aussi. Donc voilà, c'est des cessions forcées. On essaie de se recentrer sur les métiers proches de chez nous et plus corps. Mais c'est pour nous, c'est une stratégie très défensive qui est obligatoire. Hein. Sinon, on va droit dans le mur de la dette. Et donc, pour ces raisons-là, on reste à l'écart du dossier. Surtout que c'est pas de profit sur la société escomptée avant 3-4 ans au moins. Donc le redressement va être long. Mais voilà, il y a des soubresauts. Hein, quand vous êtes un titre qui en 4 ans a été divisé par plus de 50, voilà, de temps en temps vous avez des rebonds, mais plus 25 sur un cours qui a divisé par 50 en 4 ans, et vous êtes toujours classé dans les penny stock à moins d'un euro. Ouais.
Ouais, effectivement, situation toujours compliqué pour Worldline, même si on a un beau redressement sur un mois. Il faut être prudent. Un petit mot aussi, tiens, de Verallia. On a vu le groupe lancer une augmentation de capital, une vente d'actions pour financer son dividende en actions. Parallèlement, on voit énormément d'entreprises là qui, en ce moment même, émettent de la dette. On est même sur des niveaux records. Hein. On en parle souvent ici avec nos spécialistes de l'obligataire d'entreprise. Est-ce que cette dynamique des opérations financières est quelque chose, est une dynamique à jouer sur les marchés en ce moment, selon vous, Thierry?
Alors, oui, c'est la période des dividendes. Donc, en effet, il est souvent, en ce moment, proposé aux actionnaires d'être payés de leurs dividendes soit en espèces, soit en titres. Sur Verallia, les réponses ont été faites. Les actionnaires ont choisi pour 10% d'entre eux les espèces, donc ça représente une dizaine de millions d'euros hein, pour la société Verallia. Et 90% des actionnaires, dont les plus gros d'ailleurs, hein, BGWI, qui a le quasi-contrôle de la société, hein, puisqu'il ne reste plus que 12% de flottants sur la bourse de Paris pour Verallia, 90% des actionnaires ont choisi le dividende en actions. Donc la société crée des actions en contrepartie des dividendes qui auraient dû être perçus par les actionnaires, et les donne à ces actionnaires qui auraient dû les percevoir. Donc il n'y a pas de flux financier lié à ça. On n'a pas sur ce titre Verallia une dette qui est mise en place pour payer des dividendes aux actionnaires, comme parfois ça a pu se faire avec un petit peu d'excès, hein, notamment, enfin, on se souvient des dossiers pour faire remonter du cash dans les holdings de casinos ou de choses comme ça, on avait des sociétés qui s'endettaient pour pouvoir payer des dividendes. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là sur Verallia, c'est simplement technique. 90% des actionnaires ont souhaité être payés en actions, et donc il y a des actions nouvelles qui sont créées pour les rémunérer de ça. Mais la société est sainement gérée, et puis voilà, c'est même une société qu'on conseille de conserver si on en a les portefeuilles, parce que le titre cote en dessous son prix d'introduction qui était à 27 euros à l'époque, hein, quand Saint-Gobain avait fait son spin-off, là, on s'en souvient, et puis les premiers prix d'acquisition par BGWI qui monte au capital étaient même autour de 30 euros. Donc il peut y avoir même une petite prime spéculative ou une prime de contrôle, en tout cas, si jamais la société venait être retirée de la cote. Donc on reste acheteur sur ce dossier-là. Et pas de comptabilité créative au sens mauvais du terme chez Verallia, en tout cas.
Ouais, pas de. Ça reste une boîte assez étonnante et bien gérée, effectivement. On est en hausse d'1,16% sur le titre Verallia à 20,10 €. Et puis rappelez le rendement, hein, c'est une valeur de rendement. 5% et même un petit peu plus sans doute pour 2027. Thierry Gauthier, GSD Gestion, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter les valeurs du jour, et on va s'en ajouter une autre avec Pierre-Laurent de Roland Finance. Bonjour.
Bonjour.
C'est pas une surprise, c'est le champion de la semaine aussi. Là, on parle pas de, on parle pas de tourisme, on parle pas d'intelligence artificielle, on parle pas de semi-conducteurs, non, on parle volaille, on parle alimentation et on parle d'LDC. Et on peut dire que ça a été une des meilleures nouvelles de la semaine. À vous, Pierre-Laurent.
Exactement, comme vous venez de le dire, on revient aujourd'hui sur LDC, donc qui est le leader incontesté de l'industrie de la volaille en France. On en avait déjà parlé il y a quelques temps dans l'émission. Pourquoi on revient sur le titre aujourd'hui ? Pour trois raisons. La première, c'est que le groupe a publié mercredi soir des résultats annuels une nouvelle fois impressionnants. Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 7,3 milliards d'euros. L'EBITDA, lui, a progressé de 40%. Le résultat net a bondi de 32% à 321 millions d'euros. C'est des chiffres qui sont largement au-dessus des attentes des analystes. LDC atteint avec un an d'avance l'ensemble des objectifs de sa feuille de route, ce qui illustre vraiment parfaitement l'excellente capacité d'exécution de la direction. Le dividende proposé augmente par ailleurs de 45% sur l'année et passe de 1,55 € par action à 2,25 €. La deuxième raison qui fait qu'on parle d'LDC aujourd'hui, eh bien, c'est que le groupe a annoncé un nouveau plan stratégique ambitieux à horizon 2031, dans 5 ans, avec en ligne de mire la barre des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 550 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Donc passer de 7,3 milliards d'euros à 10 en 5 ans, c'est un taux de croissance annuel moyen d'environ 6% qui s'appuiera sur la croissance organique, sur la poursuite des investissements industriels et sur des acquisitions ciblées en France et en Europe. Et je vous rappelle que LDC a une position de trésorerie nette positive de près de 200 millions d'euros. Alors, le plan est ambitieux, mais largement crédible selon nous, vu le track record de la société. Et en plus, ce nouveau plan donne une importante visibilité sur les 5 prochaines années, ce que les investisseurs, en général, apprécient fortement.
Alors, il nous reste 30 secondes. Le titre gagne 45% sur un an. C'est quand même beaucoup, hein, pour une valeur, on va dire, traditionnelle. Est-ce que vous pensez qu'on n'arrive pas à des niveaux un petit peu chers ?
Eh bien, le potentiel est toujours présent. D'abord parce que le multiple, qui est de 9 fois le ROC attendu cette année, représente une décote par rapport aux comparables européens, alors qu'LDC est le meilleur élève de la classe. Et ensuite, deuxième raison, parce que la société va continuer de bénéficier encore longtemps de la hausse structurelle de la consommation de volailles.
Et LDC qui est toujours en hausse, hein, après sa forte hausse d'hier, après la publication de ses résultats, plus 1,8%, on est à 121,40€. Vous avez battu le chrono, Pierre-Laurent, de Roland Finance, mais enfin, c'était pour une valeur de qualité. Ça est sans doute la valeur de la semaine à la Bourse de Paris, hein, dans un secteur qu'on n'attendait pas forcément. LDC brille. Allez, tout de suite, l'écho du monde. Voilà, on va donc rejoindre Michel Ruimi de Lévy Capital Partners. Bonjour Michel.
Bonjour Antoine.
Alors, on va faire un point sur les chiffres qui fâchent. Ça nous ramène à ce matin en France. Inflation bien au-delà des 2%, une croissance révisée à négative sur le dernier trimestre. Ça y est, est-ce que le narratif de stagflation commence doucement à s'installer sur l'économie française selon vous ?
Oui, clairement, parce que le mot commence à circuler dans les salles de marché et parmi les stratégistes macro. Mais attention toutefois, on n'est pas dans une stagflation, je dirais celle qu'on a connue dans les années 70, avec une spirale inflation-salaire totalement hors de contrôle. La combinaison aujourd'hui, elle est plus problématique car on a une croissance qui cale, une demande intérieure fragile, et une inflation qui reste trop élevée par rapport à la cible de la BCE. Mais ce qui inquiète les investisseurs, c'est surtout la nature de cette inflation. On n'est plus uniquement sur un choc énergétique, mais les services restent inflationnistes, les coûts salariaux augmentent, et certaines rigidités de l'économie française, hein, qui sont structurelles, comme le niveau élevé des dépenses publiques, une productivité qui est au ralenti, et un marché du travail segmenté, eh bien, toutes ces rigidités obtiennent, on va dire, des tensions inflationnistes, alors même que l'activité ralentit. Et le vrai sujet, c'est que la France rentre dans une zone de croissance molle avec des taux durablement plus élevés qu'avant 2022. Or, pendant 10 ans, l'économie française a vécu sous pervision de taux zéro et ce régime monétaire est terminé. Et beaucoup d'acteurs, comme notamment l'État et certaines entreprises endettées, n'ont pas totalement intégré ce nouveau paramètre, ce nouveau coût du capital. Et donc, je dirais que le narratif stagflationniste s'installe progressivement, mais pas comme un scénario central catastrophe, mais comme un risque crédible qui est désormais intégré par les marchés.
Alors, que nous disaient les autres indicateurs de la journée en Europe ? On a eu de l'inflation, on a eu chômage en Allemagne, on a eu croissance italienne. Quel est le panorama, on va dire ?
Eh bien, le tableau européen est assez révélateur d'une économie qui ralentit, mais sans véritablement s'effondrer. En Allemagne, le signal le plus important est la faiblesse industrielle. Le modèle allemand, qui notamment s'appuie sur une énergie abondante, les exportations, une puissance manufacturière, subit une pression considérable. Et en même temps, le chômage remonte progressivement, ce qui s'était impensable il y a encore quelques années. Donc cela traduit une réelle perte de dynamisme industriel. Quant à l'Italie, elle résiste un peu, mieux que prévu sur certains semestres, grâce notamment au tourisme, à la construction et aux fonds européens, mais la croissance reste fragile, à mon goût, et elle est très dépendante des conditions financières. Et avec une dette publique qui est extrêmement élevée, l'Italie est très sensible à toute remontée de taux. Et si on considère maintenant l'inflation européenne, eh bien le marché voit bien que la désinflation existe, mais qu'elle ralentit. Ça, c'est un point essentiel, mais revenir de 10% à 3%, c'est, on va dire, relativement facile et relativement rapide, mais revenir durablement à 2% est beaucoup plus difficile, et c'est là que les banques centrales se trouvent un peu piégées. Et le résultat est que nous sommes dans une Europe qui évite la récession brutale, mais qui entre dans une forme de stagnation molle, plutôt, avec peu de gains de productivité, peu de croissance potentielle et une dépendance croissante à la dépense publique.
Bon, malgré tout, on semble être sur un climat de détente, hein, obligataire. Il y a un petit peu moins de volatilité. Est-ce que ça peut durer ? D'autant que les anticipations de relèvement de taux côté BCE sont quand même bien confirmées, là, pour le coup.
Ben c'est, à mon sens, c'est le sujet le plus important du moment sur le marché, parce qu'aujourd'hui, les marchés obligataires vivent sur une idée plutôt relativement simple, c'est-à-dire que la BCE est proche de sa fin de son cycle restrictif et que la croissance européenne est trop faible pour supporter des taux durablement élevés. Donc c'est ce qui explique la détente récente sur les rendements et le retour à un peu de calme sur la volatilité. Mais il y a une contradiction importante, à mon avis. Si l'inflation est plus persistante que prévu, notamment dans les services et les salaires, eh bien, les banques centrales devront maintenir des conditions monétaires restrictives beaucoup plus longtemps. Et autrement dit, le marché price déjà une normalisation monétaire relativement rapide, alors que les fondamentaux inflationnistes ne sont pas totalement réglés. Et cela risque crée un risque de réveil brutal de la volatilité. Et par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il faut pas oublier un élément structurel. Les États européens doivent refinancer des volumes de dette massifs dans un environnement de taux beaucoup plus élevé qu'avant 2022. Et la gratuité monétaire est révolue. Et donc la question centrale devient donc qui absorbera durablement cette masse de dette sans exiger une prime de risque plus élevée. Et pour l'instant, les investisseurs sont confiants parce que la BCE est crédible et que la croissance est faible. Mais si l'on a simultanément, on va dire, une inflation persistante, des déficits budgétaires encore qui s'accroissent et une croissance molle, alors le marché obligataire pourrait redevenir extrêmement nerveux. Et donc, ce qui veut dire que le calme actuel est donc fragile, mais c'est pas un nouveau régime de stabilité.
Voilà, faut pas s'y habituer, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a tendance à se calmer un tout petit peu. 3,57 sur le 10 ans français, 2,96 sur le 10 ans allemand et 4,45 pour le 10 ans américain. Merci infiniment, Michel Ruimi de Lévy Capital Partners, pour ce panorama complet hein, macroéconomique. Et puis, vous savez, c'est vendredi, c'est Tech Stocks sur BFM Bourse. Évidemment, un panorama complet de l'actualité de la tech et... Il va y avoir une superstar avec nous. Je vous en dis pas plus. À dans quelques secondes.
BFM Bourse, Tech Stocks.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech pendant 27 minutes. On va vous apporter des idées neuves, des pépites. On va tenter de faire de vous des insiders. Allez, c'est parti. Notre goat de la tech, parce qu'on l'a... En exclusivité, toute seule, rien que pour nous. Alice Labou d'Alice Labou Conseil. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors, vous le savez, chaque vendredi à cette heure-ci, BFM Bourse prend de l'avance sur la tech boursière grâce à votre expertise. Dans un instant, vous allez nous parler de pépites méconnues, mais tout d'abord, on va parler de l'actualité de la semaine et autant dire qu'il y a de quoi causer. Alors, on va parler des actus que vous avez sélectionnées. Microsoft qui relance le nucléaire. Ça, c'est...
Alors, on est obligé d'en parler parce que c'est vraiment la grande thématique. Hein. C'est la relation entre l'intelligence artificielle et les sujets d'énergie. Ça devient clé. Et là, je trouve que c'est vraiment important, marquant. Je pense que c'est une des nouvelles les plus importantes d'ailleurs de cette année. C'est que Microsoft, en fait, justement, soutient la réactivation d'un réacteur, pour le coup, nucléaire, dans un endroit qui s'appelle Three Miles Island.
Les boomers comme moi connaissent.
Voilà, exactement, les boomers peuvent connaître. Tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est vrai que les Américains connaissent bien parce que ça a été le plus... En fait, c'est là où il y a eu le plus gros accident nucléaire américain.
C'est leur Tchernobyl à eux. Hein. Alors,
Je rassure tout le monde, il n'y a pas eu de mort ni dans la population.
Ça a été très compliqué.
Ni dans les employés, mais c'est vrai que, du coup, les Américains connaissent bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il devient indispensable maintenant de se procurer et de sécuriser un maximum de solutions énergétiques dans la durée. Et donc, ça me fait un peu appel aussi, malheureusement, au fait qu'en France, on a énormément sous-investi dans le nucléaire et que c'était un avantage quand même stratégique majeur, notamment dans la course à l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que ça mérite qu'on se penche sur le sujet.
Alors oui, en même temps, c'est vrai que les centrales nucléaires, elles poussent pas en deux mois, c'est plus compliqué que ça, mais on a peut-être fait une erreur historique à un mauvais moment, c'est-à-dire de pas relancer le nucléaire comme il faut et de trop hésiter sur les énergies renouvelables, qui peuvent nous aider elles aussi.
Oui, qui peuvent nous aider, alors pas dans les proportions, des proportions équivalentes au nucléaire. Et surtout, moi, ce que j'aime maintenant le nucléaire, c'est que c'était un énorme avantage compétitif français. On savait concevoir, fabriquer, installer, entretenir, en fait, des centrales nucléaires. Je rappelle qu'on a quand même beaucoup formé les Chinois sur comment fabriquer des centrales nucléaires et que maintenant, ils ont tellement amélioré les process de ce que l'on leur a appris, qu'on fait appel à eux quand on a besoin de réinstaller nos propres centrales nucléaires. Donc c'est pour dire comme on a perdu en fait en souveraineté en la matière.
Ah ben c'est symptomatique d'un processus industriel raté, on va pas se le cacher, c'est bien dommage. Alors du coup, ben ça... c'est quand même bon pour nous parce que derrière, il y a toute l'infrastructure électrique qui doit être soutenue et l'infrastructure électrique chez nous, il y a, avant d'arriver au bâtiment, Schneider Electric, et dans le bâtiment, il y a Legrand, en gros, si on regarde l'architecture des data centers. Mais Schneider Electric, par exemple, ça va rester un acteur majeur. Je ne sais pas, à chaque fois qu'il y a des présentations de projets de data centers, je vois des éléments, il y a marqué petite flèche Schneider Electric. Donc ça, c'est quand même un atout indispensable.
Et là, une fois n'est pas coutume, cocorico, quand même, il faut le dire de temps en temps. C'est vrai que Schneider, en fait, a vraiment cet avantage. C'est-à-dire que comme l'énergie devient le sujet clé, en fait, la capacité à gérer l'énergie, c'est Schneider qui l'a. C'est vraiment un des grands acteurs mondiaux. Et donc, je pense que ça fait partie des top picks, en tout cas des valeurs qu'il faut avoir en portefeuille là pour les années à venir. Donc, profitons-en, ce n'est pas toujours le cas.
Alors, on va juste parler un petit peu d'abstrait et de l'actualité immédiate. On a vu les derniers chiffres de valorisation d'Anthropic. Maintenant, ça y est, ils se veulent plus gros qu'OpenAI. On parle d'une valorisation qui pourrait, de sources officieuses, proche du dossier, atteindre les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Moi, il y a trois semaines, je lisais 1400. Tout ça, ça fait du yo-yo. Tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, cette course à la taille critique avant les IPO ? Surtout que le marché des pré-IPO, c'est quelque chose que vous avez toujours regardé de très près.
Oui, énormément. Quand vous vous dites la course à la taille critique, vous voulez dire à quel point ils cherchent à être développés avant, c'est-à-dire avoir beaucoup d'utilisateurs avant, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Quitte à être entre les deux perpétuellement, pour maximiser la valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ce n'est pas une sorte de modèle économique, finalement, pour alors que ce soit OpenAI ou que ce soit Anthropic ?
D'avoir beaucoup d'utilisateurs et de montrer en fait leur capacité, oui, ça c'est certain. Après, de toute façon, on est dans un moment où on achète la suite de l'histoire, on achète l'avenir, on vit l'équivalent d'une révolution industrielle, il faut bien l'avoir en tête. Donc imaginez si ceux qui avaient inventé la machine à vapeur avaient été introduits en bourse, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'on aurait des niveaux de valorisation énormes et qu'ils auraient besoin de démontrer que l'utilisation des machines à vapeur est de plus en plus attractive, intéressante. Donc dans ce cadre-là, ça me semble assez logique. Le fait qu'il y ait des valorisations énormes, ça me semble à la fois logique et en même temps, on voit à quelle vitesse Anthropic, c'est-à-dire Claude, AI, est venu en fait concurrencer ChatGPT qui était El Maestro, qui était vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. Donc ça va très très vite. Et d'ailleurs, c'est un sujet pour tous les gens qui créent des business aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle. Ils se demandent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va arriver dans 3 mois et qui va complètement bouleverser ma manière d'opérer, même à travers l'IA ?
Alors, autre actualité, et on parle de disruption justement, et ce fameux jeu de massacre là, qui consistait à taper sur la tronche des éditeurs de logiciels professionnels, parce que l'IA allait les disrupter. Là, on a eu Mistral AI qui a dit, moi je vais commencer à bosser avec les industriels et créer des processus, machin. Et tout de suite, première réaction, Dassault Systèmes, boum. La question que je me suis posée, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir en plateau aujourd'hui, est-ce que c'est Mistral AI qui peut, d'un coup, comme ça, ex nihilo, donner les données d'écoulement dynamique sur les Airbus, concevoir des planches de bord, des nouvelles Peugeot ou des Fiat. Non, ils ont besoin des données propriétaires, ils ont besoin des gens qui s'en occupent et qui connaissent le métier. Au contraire, Dassault Systèmes va intégrer l'IA au processus pour qu'il soit plus efficace et gagner du temps. Non, c'est pas plutôt dans ce sens-là que ça va
se passer. Ce que vous dites m'évoque deux sujets. Le premier sujet, c'est que malheureusement, Mistral AI a besoin de pivoter.
Bien sûr.
Là, pour le coup, c'est pas très cocorico, mais en tout cas, c'est vrai que malheureusement...
Mais c'est logique aussi.
Ça va être dur d'imposer le chat, donc leur solution d'intelligence artificielle dans le monde entier. On essaye en Europe de l'utiliser parce que c'est évidemment souverain, on va dire. Mais la réalité, c'est que s'ils veulent gagner de l'argent et exister dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faut qu'ils trouvent un nouveau modèle. Je trouve que c'est intelligent de se dire... Écoutez, on est en Europe, on a des industries, on a des entreprises qui ont besoin d'accélération, d'ultra-digitalisation en utilisant l'IA, de spécialistes qui vont venir en fait entraîner des IA pour le compte des entreprises. Donc, c'est malin. Mmh. Ça, c'est mon premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est vrai que c'est étrange, en fait. C'est-à-dire, c'est étrange des entreprises qui sont pour la plupart quand même avec beaucoup de propriétés intellectuelles, de propriétés industrielles, de compétition mondiale, qui vont faire rentrer, en fait, finalement, et qui vont donner accès à sûrement des bases de données quand même significatives pour pouvoir construire des modèles. Alors, une société européenne. Donc, j'espère que ça va être bien encadré, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ça peut poser des questions. C'est une nouvelle manière de gérer ces datas.
Mais est-ce que ce n'est pas justement le témoin que l'IA doit être justement au confluent de ceux qui savent faire, donc qui ont les données, le savoir-faire, et je pense au Dassault System par rapport à un Airbus, et être l'accélérateur du processus qui sera au centre, et simplement se limiter à ça, et ce sera déjà très très bien.
Ce sera bien, mais vous savez, dès qu'il y a de la place, on entre, hein, c'est ça le business. Ouais, hein. Donc là, il y a de la place.
Le
c'est
pied
sûr
dans
que
la porte.
Beaucoup d'entreprises, on peut quand même le dire, moi je vois plein de chefs d'entreprise dans plein de domaines, des petites, des moyennes et des grosses entreprises. Le choc est tellement violent de l'intelligence artificielle qu'on se dit, je suis obligé de prendre la vague. Et prendre la vague aujourd'hui avec des gens en interne qui n'ont pas forcément les réflexes, la formation IA, c'est très difficile. Ouais. Donc on fait appel à des consultants, il y en a plein. Mais quand il y a des gens comme le chat, comme Mistral, en fait, qui sont quand même très compétents, brillants, avec un gros savoir-faire, une veille mondiale extraordinaire, qui disent, bah, nous, on va vous aider à implémenter l'IA dans vos systèmes et dans votre manière de travailler. Bon, je comprends que ça donne un petit peu envie, quoi.
Bon, il y a un truc sur lequel vous nous mettez le nez. Toutes les sociétés software qui sont typologie intelligence artificielle. Bon. Est-ce que c'est une hype ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher? On en a vu un, deux, trois du côté des États-Unis, etc., qui étaient très actives. Est-ce que pour autant, il n'y a pas quelque chose qui est un peu surévalué là-dessus?
En fait, l'intelligence artificielle progresse tellement vite qu'on arrive à créer des logiciels de plus en plus rapidement. Avec très peu de moyens de son côté. Bon, nous, on y arrive déjà chez nous. Donc, imaginez une entreprise qui se lance dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'en fait, ça va être un segment qui va être extrêmement bouleversé. On a déjà commencé à le voir. Et c'est la raison pour laquelle, dans la question qui m'avait été posée en préparant cette émission, c'est de dire, vous restez à l'écart de quoi? Je reste à l'écart des logiciels dans leur ensemble parce que je suis convaincue qu'il va y avoir... Alors, certains, peut-être, vont se réinventer grâce à l'IA. Et tant mieux. Je pense que, d'ailleurs, je les invite à le faire. Il y a urgent d'y travailler, mais il y a beaucoup de chances qu'il y ait des nouveautés rapides, efficaces qui sortent et qui viennent complètement exploser le marché et certains leaders. Donc, je resterai à l'écart.
Ouais, voilà. Là, on va parler de disruption, mais à juste raison, parce qu'il n'y a plus aucune plus-value. Et là, effectivement, c'est le syndrome Duolingo.
Oui.